Seigneur, nous voulons que tu demeures le seul enseignant, celui qui nous révèle les vérités de ton royaume, celui qui nous assiste jour après jour, celui qui nous revêt d'humilité, de douceur et de tendresse, celui qui imprime le sens de la sainteté, de la justice dans nos cœurs. Garde nos cœurs purs, loin de toute souillure et de toute impureté. Seigneur, nous avons besoin de toi. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi, à nous attendre toujours à toi, quel que soit le besoin. Plus que jamais, nous avons besoin, Seigneur, d'avoir une conscience pure, débarrassée de toute œuvre morte. Plus que jamais, nous avons besoin, Seigneur, que ta main agisse puissamment en notre faveur. Nous vivons des temps difficiles où, Seigneur, nous assistons à une activité intense de la part des hôtes des ténèbres, de la part, ô Dieu, de tous ces prédateurs spirituels. Et dans un temps comme celui-ci, nous avons plus que jamais besoin de toi. Apprends nos cœurs à posséder ce corps dans la sainteté. Apprends-nous, Seigneur, à vivre et à marcher dans la sanctification, à demeurer dans la crainte de ton nom, car tu reviens très bientôt. Seigneur, merci. Merci pour ces moments, Seigneur, de louange et d'adoration. Nous voulons maintenant, ô Dieu, avec humilité, nous asseoir à tes pieds et te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, et en même temps, donne-nous la capacité, ô Dieu, de comprendre tout ce qui vient de ta part. Bénis ton serviteur et bénis chacun de nous. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Garde nos cœurs purs, garde-nous fidèles à toi. Tel devrait être le cri de nos cœurs chaque jour qui passe. Amen. Voilà, comme vous le savez, vous l'avez remarqué, donc les tables sont prêtes pour le repas du Seigneur pour la Sainte Cène. Ce sera donc notre première Sainte Cène de cette année 2022. Une occasion pour nous de dire merci à Dieu d'avoir été avec nous durant l'année qui s'est achevée depuis plusieurs semaines, mais aussi de nous avoir fait entrer dans cette nouvelle semaine, dans cette nouvelle année. Et il n'y a pas mieux que de commencer une année, mes amis, par une communion avec le Seigneur au travers du Saint Repas. Mais avant ça, nous allons lire la parole et je voudrais revenir sur notre thème de la fois dernière, à savoir l'importance de l'unité spirituelle. Et en tant que corps du Christ, il est donc important que nous comprenions que l'unité n'est pas quelque chose d'optionnel, de facultatif, mais plutôt une nécessité, mais plutôt une réalité qui a toute sa place dans le corps du Christ. Alléluia. Nous sommes condamnés à vivre les uns avec les autres, à avoir des rapports fraternels, rien à faire. Nous sommes des frères et sœurs. Alléluia. Nous avons un même Père céleste qui nous a engendrés à la nouvelle vie. Nous avons un même Sauveur, celui qui a donné sa vie à Golgotha. Nous avons le même Esprit qui habite en nous et par sa présence en nous a fait de nos corps le temple du Dieu vivant. Eh bien, ne serait-ce que pour ces raisons, comme nous l'avons souligné la fois dernière, nous avons tout intérêt, mes amis, à rechercher, autant que faire se peut, à nous sacrifier pour pouvoir créer des conditions parmi nous qui permettent des rapports harmonieux, des vrais rapports fraternels, qui permettent au corps du Christ, et en particulier à son assemblée ici à la Borne, et donc de demeurer dans l'unité avec toutes les conséquences merveilleuses et extraordinaires qui s'en suivent. Nous allons relire les deux passages de la fois dernière, à savoir Romains 12, chapitre 4 à 5. Romains 12, chapitre 4 à 5, et puis ensuite, nous lirons Philippiens, chapitre 1, verset 27 à 30. Disons Romains 12. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Et enfin, Philippiens chapitre 1, 27 à 30. Seulement, nous dit la parole, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer, et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. L'unité. Nous en avons parlé la fois dernière, et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, à découvrir par rapport à cette nécessité, par rapport à cette vérité, à cette réalité, en ce qui concerne le corps du Christ. Et gloire à Dieu. Avant de quitter cette terre, de retourner auprès du Père, d'occuper la place qu'il occupe depuis, cette place qui le met au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute gloire, quelle qu'elle soit. Avant donc de remonter auprès du Père, le Seigneur s'est tenu devant lui, alors qu'il vivait ses derniers instants sur cette terre avant la crucifixion. Il s'est tenu devant le Père et a commencé à intercéder pour ceux qui avaient cru en lui. Non seulement ceux qui avaient cru en lui en ce temps-là, mais il va intercéder également pour ceux qui croiraient en écoutant, en recevant sa parole dans les générations à venir. Et parmi les différents sujets de son intercession devant le Père, il y en a un qui nous a intéressés la fois dernière, puisqu'il est en rapport avec l'unité spirituelle. Le Seigneur, devant notre Père, il lui dit dans Jean 17, versets 20 à 23, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, mes amis, cette insistance, les paroles de cette prière suffisent à elles seules. Mes amis, pour nous montrer toute l'importance, pour nous montrer la nécessité pour le corps du Christ, puisque nous sommes les membres des uns des autres, la nécessité, mes amis, de demeurer dans l'unité spirituelle, d'être en communion, non seulement avec le Seigneur sur le plan vertical, mais d'être aussi véritablement en communion sur le plan spirituel, les uns avec les autres. Alléluia. Et gloire à Dieu. Nous voyons donc, mes amis, que c'est dans la volonté de Dieu, pour son Église, pour tous ceux qui ont cru en lui, pour tous ceux qui lui appartiennent, c'est dans sa volonté que ceux-là demeurent unis, qu'ils soient parfaitement un. Mais vous conviendrez avec moi que l'unité est souvent la moindre de nos préoccupations. Nous cherchons l'onction par tous les moyens. Nous cherchons l'huile puissante de l'Esprit par tous les moyens. Nous cherchons le feu d'en haut par tous les moyens, C'est une très très bonne chose. Mais cependant, nous devons reconnaître que dans la plupart des cas, nous ne faisons rien. Voyez-vous, sur le plan personnel, pour que créer des conditions, chacun pour sa part, avec sa contribution, des conditions qui permettent à Dieu, mes amis, de nous unir sur le plan spirituel, de développer, de faire éclore au milieu de nous l'unité spirituelle dont nous avons tant besoin. L'unité spirituelle reste, mes amis, un défi majeur que l'Église du Christ doit relever absolument. Vous voyez? Ce n'est pas une vérité de seconde main. Vous savez que sur le marché vestimentaire, vous trouvez des vêtements de seconde main, voyez-vous, et généralement ce sont des vêtements, peu importe leur marque, qui ne coûtent pas cher, oui ou non. Vous trouvez des choses de seconde main, des véhicules d'occasion, etc. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes amis, que l'unité n'est pas quelque chose de seconde main. C'est pas quelque chose, mes amis, que nous devrions prendre à la légère. C'est une nécessité. Le Seigneur lui-même a passé du temps devant notre Père pour demander à ce que l'unité demeure au milieu de nous, que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Un vrai défi que nous devons absolument relever en tant que corps du Christ, car c'est un fait clairement établi et démontré dans la parole de Dieu que là où des frères et sœurs en Christ demeurent unis, marchent ensemble, regardant dans la même direction, celle de l'Esprit, c'est un fait clairement établi et démontré que là où l'Église demeure dans la pensée du Christ, là où l'Église, mes amis, demeure dans l'unité, là où le Saint-Esprit, est présent grâce à l'unité spirituelle, eh bien la Bible nous dit que là, le Seigneur agit puissamment. Alléluia. Nous l'avons vu avec le psaume 133 dans l'Ancien Testament. C'est à juste titre que j'ai pris ce texte car il y a tant d'autres textes qui vont dans le sens de l'unité du peuple de Dieu, même dans l'Ancienne Alliance. Et là, dans le psaume 133, nous voyons clairement ce principe de l'unité spirituelle établi et présenté comme étant une nécessité. Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est essentiel que des frères demeurent unis en saint. C'est là que Dieu ordonne. Je vous avais dit sur le verbe utilisé littéralement. C'est là que Dieu ordonne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Oh, alléluia. L'unité fondamentale. Nous aurons le temps de revenir sur ce thème. Jésus a dit, si deux ou trois s'accordent pour demander une chose au Père, cela leur sera donné. Si deux ou trois s'accordent, vous voyez, mes amis, que même au niveau de la prière, l'unité est fondamentale. Quand il y a une unité, eh bien, le règne de Dieu se manifeste dans toute sa gloire. Quand il y a unité, nous pouvons alors voir Dieu agir de manière tangible, de manière palpable, de manière réelle. Et pour nous en convaincre très rapidement, nous allons nous tourner vers la première Église, l'Église du Nouveau Testament, et essayer de faire un petit état des lieux à partir du livre des Actes, car le livre des Actes est un condensé de l'histoire de l'Église à cette époque-là. Voyez-vous? Donc, le livre des Actes nous présente, nous dresse le portrait de la première Église et voir, mes amis, à la lumière de ce que Luc nous a laissé comme témoignage historique, voir comment, mes amis, l'unité était présente parmi les croyants de la première Église. Comment l'unité était présente parmi les apôtres. Et tout ce qui va être fait, comme nous le verrons, dans l'Église, En tout cas, à partir du témoignage historique que nous avons dans le livre des Actes, tout cela, mes amis, va reposer sur ce principe-là de l'unité. Car là où il y a division, là le Saint-Esprit refuse d'agir. Le Seigneur lui-même a dit, une maison divisée contre elle-même ne tiendra pas debout. Oui ou non? Une famille au sein de laquelle, eh bien, les membres seraient à couteau tiré, eh bien, cette famille est appelée à disparaître. Unité dans l'Église. Et ses conséquences merveilleuses et ses résultats extraordinaires. La première Église reste un modèle normatif pour nous. Voyez-vous? Cette Église reste un modèle pour les autres églises à travers les âges. Quand on lit les livres des Actes, quelquefois je me dis, est-ce que c'est vraiment le même Seigneur, le même Saint-Esprit? Puisque quand on voit comment cette église a été une église conquérante, une église qui renversait tout sur son passage, une église qui a défié, mes amis, des rois, une église qui a amené l'église dans des coins reculés. Voyez-vous, malgré la persécution, malgré toutes sortes de tribulations auxquelles cette Église a été confrontée, eh bien, elle n'a jamais baissé le bras. Elle a continué à poursuivre sa marche dans l'espace et dans le temps. Eh bien, en étudiant tout ça, nous le verrons un peu plus en détail, pour expliquer ce feu glorieux qui brûlait au sein de cette Église du Nouveau Testament, expliquer un peu cette onction particulière qui a reposé sur cette Église, voir comment cette Église a expérimenté les promesses du Seigneur de manière extraordinaire. Nous verrons tout cela plus tard, mais aujourd'hui nous allons voir très rapidement les résultats extraordinaires qu'il y a au sein de l'Église, lorsque les membres de l'Église demeurent dans l'unité. Il y a toujours des résultats extraordinaires, il y a toujours des conséquences glorieuses. Un petit tour très rapide à travers le livre des Actes. Dans Actes chapitre 1, verset 14, il nous est dit, Acte 1, verset 14, là nous sommes dans la chambre haute. Le Seigneur leur a laissé une promesse. Il a dit, ne vous précipitez pas d'aller pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu, répandre le royaume de Dieu, restez jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et par obéissance à cette promesse, ils vont se retirer dans la chambre haute. Et c'est là que nous le retrouvons au verset 14. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans la supplication. Donc il y a des manuscrits qui ajoutent dans la prière et dans la supplication, etc. Tous d'un commun accord, littéralement, tous d'un même cœur. Ce n'était pas simplement se retrouver ensemble comme nous sommes là. Car vous pouvez être assis à côté de votre frère ou de votre sœur en Christ et ne pas être en accord sur le plan spirituel avec elle ou avec lui. Tous d'un même cœur, mes amis, persévérez dans la prière. Ils ne se sont pas dit très bien. Pierre n'a pas dit, écoutez mes amis, moi j'ai une femme que j'aime. Et mes enfants, voilà, Jean, tu rentres chez toi, nous rentrons, et puis nous allons prier pour que le Seigneur accomplisse sa promesse. Pas du tout. Tous d'un même cœur. Voyez que tout commence avec l'unité de cœur. Le livre des Actes des Apôtres commence là. Unité de cœur. dans la prière, dans la recherche de Dieu. Unité de cœur, mes amis, pour expérimenter la réalisation de la promesse du Père. Tous d'un commun accord, tous d'un même cœur, persévérer dans la prière et dans la supplication. Chapitre 2, le jour de la Pentecôte arrive. Là aussi, au jour de la Pentecôte, il nous est dit, verset 1er, ils étaient tous ensemble. Et certains manuscrits disent, ils étaient tous d'un commun accord. Au jour de la Pentecôte, nous retrouvons de nouveau cette vérité. Ils étaient tous ensemble. Alléluia. Tous d'un commun accord. Donc nous voyons que ça a commencé dans ce jour-là. Une dizaine de jours auparavant, ils sont demeurés dans cette attitude. Et puis au jour de la Pentecôte, de nouveau, tous d'un commun accord. Tous ensemble. Verset 44, le Saint-Esprit est descendu. Pierre va prêcher la parole. Et là, la première communauté chrétienne commence véritablement. Et Actes chapitre 2, verset 44, il nous est dit ceci. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun, en d'autres mots, partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils avaient tout en de nouveau l'unité. Quelquefois, nous cherchons des détours, nous allons à la montagne pour jeûner pendant 40 jours, tout en ayant des cœurs remplis de haine, d'amertume, de jalousie. Et nous pensons qu'après, au bout de 40 jours, Dieu serait dans la contrainte d'agir. Voilà les principes, hein. Tous d'un commun accord. Ils avaient tout en commun. Partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Chapitre 2, verset 46. Nous y allons systématiquement. Eh bien, il nous est dit, verset 46, « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, non pas chacun regardant dans sa direction, mais plutôt tous d'un commun. Gloire à Dieu. » Eh bien, à ce stade, voyons les résultats de cette communion spirituelle. Nous trouvons le résultat, mes amis, au verset 47 du même chapitre, où il est dit, « Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Vous voyez, mes amis, le résultat extraordinaire de l'unité. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Une église désunie est une abomination pour le monde. Voyez-vous, tout commence à l'église. Partout où l'église a vécu ça, partout le réveil a apporté, mes amis, des résultats, entraîné des résultats, même sur le plan économique, sur le plan financier. Parce que les gens étaient unis. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Et il a accompli son merveille. Ses merveilles. Acte 83. Pas 83, 4, verset 23. Et suivant. Eh bien là, nous sommes dans une situation, dans un contexte. Un contexte difficile parce que Pierre et Jean ont été arrêtés à la suite de la guérison de ce boiteux qui s'était né à la porte dite la Belle, au temple évidemment. Cet homme a marché, ce boiteux a marché, et ça va entraîner des problèmes. Ils sont arrêtés, ils comparaissent devant les autorités juives, devant le Sanhédrin, etc. Et puis finalement on le relâche. Quand ils sont relâchés, eh bien, Pierre avait une famille, n'est-ce pas? Oui ou non? Si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'à un moment, sa belle-mère fut malade et le Seigneur l'avait guérie. Le vrai Pierre, hein? Voilà. Donc, il aurait pu dire, bon, ok, on m'a arrêté, écoutez, je vais d'abord aller, certainement qu'il a eu par après. Mais écoute, regardez le réflexe. La Bible nous dit qu'après leur comparution, après qu'ils soient relâchés, ils sont allés vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsque ces bien-aimés, ces croyants, bref, lorsque l'Église entend leur récit, la Bible nous dit d'un commun accord, au verset 24, ils élevèrent la voix vers Dieu et prièrent. Vous voyez, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel, etc. Ils ont prié d'un commun. Et là aussi, nous voyons des résultats extraordinaires. Au verset 31, il nous est dit, quand ils eurent prié, les lieux, verset 31, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec un des résultats de l'unité, mes amis. Vous voyez, quand ils eurent prié de commun accord, quand ils eurent prié d'un même cœur, eh bien, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole du Seigneur avec assurance. Acte 32, un autre exemple, 4 plutôt 32, toujours à propos de la communauté chrétienne, donc de l'Église, il nous est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous devrions lire tout ça régulièrement, au lieu de courir vers des choses qui, dans la plupart des cas, nous distraient. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et la Bible, de continuer, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Oh, alléluia! Là, nous voyons le résultat matériel de l'unité. Ils avaient tout en commun. Voyez-vous? Personne ne disait, ça, ce sont mes biens, l'égoïsme, l'indifférence aux besoins des autres. En d'autres mots, ils étaient généreux les uns envers les autres. Ils partageaient, celui qui n'en avait pas beaucoup, eh bien, on lui en donnait. Ils avaient tout en commun. Vous comprenez pourquoi, quand vous continuez la lecture dans ce livre, eh bien, vous allez de gloire en gloire avec cette Église. Dont l'unité, mes amis, spirituelle évidemment, est aussi un secret pour expérimenter la puissance de Dieu en tant que corps du Christ. Si nous voulons que notre Église expérimente, mes amis, les grâces qui lui sont destinées, si nous voulons que la borne soit un lieu qui abrite, qui accueille la gloire du Seigneur, un lieu où brûle le feu de la Pentecôte, si nous voulons expérimenter le règne de Dieu dans sa puissance, mes amis, nous n'avons pas d'autre choix que de tout faire pour que nous demeurions tous unis, alléluia, pour que la communion fraternelle, le vrai amour agapé, devienne une réalité parmi nous. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14h. Le secret, un des secrets est là, tous d'un commun accord. Et vous allez trouver ce principe dans cette Église-là. Et donc, il n'est pas étonnant que cette Église ait été une Église conquérante, une Église puissante, un véritable rouleau compresseur, une Église qui a relevé des défis. Et en comparaison avec l'Église de Jésus aujourd'hui, eh bien, nous pouvons dire qu'il y a un abîme. Oui ou non? Regardez comment le monde nous défie. Regardez comment le monde tourne en dérision l'Église du Christ. Regardez comment le monde se moque de nous. Le monde arrive même à atterrir dans l'Église sans être inquiété. Et avec de telles conditions spirituelles, nous aurons beau prier, nous aurons beau organiser des programmes de prière, mais si nous ne prions pas d'un même cœur, de commun accord, nous n'expérimenterons jamais, jamais alors, la puissance et la gloire du Seigneur. Mes amis, l'unité est fondamentale. L'unité est vitale. Si tu as des problèmes, je reviendrai sur ce thème, parce qu'il est important. Si tu as des problèmes avec ton frère ou ta sœur en Christ, si tu as des problèmes avec ton épouse ou ton mari, si tu as des problèmes avec les enfants, si tu as des problèmes au niveau professionnel, tout ce que vous voulez, il faut les régulariser. Il faut que nos cœurs soient libérés de tout cela. Que nous soyons véritablement en communion avec le Seigneur pour nous mettre à chercher la communion entre nous les uns avec les autres. Amen. Alors, mettons-nous à prier pour l'unité parmi nous. Recherchons tout ce qui contribue à la paix, tout ce qui contribue au développement, à l'éclosion et au développement de l'unité spirituelle parmi nous. Amen. Nous allons prier et puis nous préparer à la Sainte Cène. Je voudrais que chacun prenne un temps pour prier pour notre assemblée, prier pour notre communauté des assemblées de Dieu ici au Congo, prier pour que l'unité soit, mais une unité fondée sur la personne du Christ, une unité qui repose sur les principes de la parole, et non pas une unité charnelle, une sorte de syncrétisme ou d'œcuménisme, ça c'est pas l'unité. Je parle de la vraie unité spirituelle. Que nous prions tous ensemble, alléluia. Nous voulons te remercier, notre Père, pour le message de ta parole. Nous réalisons une fois de plus que l'unité a été un des secrets de la puissance de la première Église, de l'Église primitive. Nous voyons combien ces bien-aimés, Seigneur, passaient du temps ensemble, persévéraient dans la prière et dans la supplication, et ce, de commun accord. Nous les voyons ensemble prier, demeurer dans la communion de l'Esprit, être habité par la même pensée. Ô Dieu, aide-nous à nous inspirer, Seigneur, de ce bien-aimé à réaliser combien l'unité est indispensable, combien elle est essentielle pour que le corps reste en vie. Comme nous l'avons lu, nous sommes des membres qui appartiennent à un seul corps, ton corps à toi. Et en tant que membres les uns les autres, Seigneur, nous devons tout faire pour que l'unité devienne une réalité, Seigneur, au milieu de nous. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui nous dresse les uns contre les autres. Aide-nous, ô Dieu, à avoir des cœurs purs les uns envers les autres, à marcher de commun accord, Seigneur, d'un même cœur, à combattre d'un même cœur et d'une même âme. Contre, Seigneur, le monde des ténèbres qui essaye par tous les moyens de nous influencer et de nous arrêter dans notre marche avec toi. Seigneur, merci. Merci pour tout. Amen.